À quoi ressemble un monde low-tech ? Parce que de gré ou de force, on va consommer moins. Alors aujourd'hui, on va rêver. Plutôt que d'être terrorisé par les pénuries et la perte de confort, aujourd'hui, on va te raconter à quoi pourrait ressembler un quotidien plus lent et plus apaisé dans un monde plus sobre, donc qui consomme moins de ressources. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Philippe Biwix pour rêver d'une autre vie grâce au low-tech. Salut Philippe.
Salut Pierre.
Alors je te présente en 10 secondes. Tu es ingénieur de formation et spécialiste de l'épuisement des ressources et des low-tech. Tu as notamment écrit L'âge des low-tech. Et moi, j'ai déjà dit, j'avais pas envie de faire un épisode déprimant sur l'épuisement des ressources, ce qui est ta spécialité, pas de déprimer les gens, mais l'épuisement des ressources, parce qu'on a déjà parlé justement, notamment avec Jean Covici. Donc je vous fais une mini synthèse avant de passer à la partie plus fun d'imaginer une autre vie. Mais en gros, on s'apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que dans toute l'histoire de l'humanité. Sauf que, vous le savez, la Terre a pas des ressources inépuisables, notamment en métaux, qui constituent nos téléphones, nos batteries de voiture, les infrastructures qui transportent tout, notre électricité, notre alimentation, etc. Donc, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais nos vies vont changer. Et donc, aujourd'hui, on va se demander comment est-ce que, malgré ces contraintes environnementales, on pourrait garder une vie assez confortable et enthousiaste. Et pour ça, on va devoir consommer moins et mieux, notamment grâce à des technos plus simples. Et donc, pour commencer, Philippe, alors on imagine qu'on est en 2040, tu vis ta meilleure vie grâce au low-tech. Comment est-ce que ton quotidien il a changé là en 2040? Est-ce que tu as un moulin à café manuel plutôt qu'une cafetière électronique? Est-ce que tu amènes tes tupperwares partout au resto, un peu comme en Inde, pour acheter à emporter? Et est-ce que quand ta chemise est usée, tu changes juste le col ou les manches comme on faisait avant, un peu comme les brosses à dents à tête rechargeable?
Bah ouais, un peu tout ça, sans doute, effectivement. Alors je pense que, je vais pas vous décrire ma vie en 2040, mais il y aura toute une série de vies différentes, et heureusement, et il faut qu'il y ait un peu de diversité. En fait, en 2040, on n'est pas forcément complètement dans un monde low-tech ou dans un monde qui a quelque part atterri ou qui s'est réinscrit dans les limites planétaires. Je pense que
c'est trop tôt.
On est dans un monde qui est encore en transformation. Parce qu'en fait, 2040, ça arrive très, très vite.
On est en 2060, si tu préfères.
Voilà. Pour moi, c'est un monde dans lequel on utilise beaucoup moins de ressources. Et en fait, le fait d'utiliser beaucoup moins de ressources, de dépenser beaucoup moins d'énergie, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'est retrouvé à l'âge des cavernes, quoi. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait pour consommer moins de ressources tout en conservant une vie sympa et intéressante? En fait, on peut jouer sur l'énorme stock d'abord qui est en place, l'énorme patrimoine qu'on a. On a déjà aussi extrait une quantité phénoménale de la croûte terrestre, et ça nous a permis de construire des bâtiments, des infrastructures, des objets qui sont bourrés de métaux, qui s'appellent des voitures, des téléphones, des ordinateurs, des chaises et je sais pas quoi. Et voilà. Et en fait, on pourrait déjà rentrer dans une sorte d'âge de la maintenance. Hein. Je reprends le titre d'une de la revue Ouzbek Erika qui est sortie il y a quelques mois. Donc un âge dans lequel on est d'abord à travailler sur l'existant, à réparer l'existant, à faire durer, à prendre soin et à transmettre aussi. Hein, ça c'est des choses qu'on a oubliées, et pas être juste dans le consommer jeté. Donc ça veut dire quoi? Dans le bâtiment, peut-être qu'on construit moins et qu'on utilise mieux, et qu'on a réinvesti les bâtiments vacants, les logements vacants, qu'on a su freiner et inverser la tendance à la métropolisation, hein. Finalement, le fait qu'on construit de plus en plus en s'entassant dans des grandes villes ou autour des grandes villes, et puis au détriment des villages, des bourgs, des petites villes. Dans les transports, effectivement, d'aller vers des voitures beaucoup plus légères, beaucoup plus petites, et puis à terme d'aller même vers beaucoup plus de vélos, même si on prendra pas le vélo pour tous les trajets, et puis tout le monde peut pas forcément faire du vélo en termes d'état physique, d'âge, etc., et même de géographie, même quand il y a l'assistance électrique.
Et pas plus de transports en commun?
Plus de transports en commun, certainement, oui. Et d'ailleurs, pas qu'en jurant sur le train. Le train fait partie du dispositif, mais il y a un moment où le réseau aussi, il peut avoir ses limites de saturation. Et donc, il faut aussi du bus. Il faut aussi, toute une gamme possible de choses. Pourquoi pas un peu de covoiturage et autres. Et puis, il faut aussi de la démobilité. Hein, c'est-à-dire que il va falloir quand même se déplacer moins. et il va falloir déplacer moins les marchandises, quoi. Donc, alors déplacer moins les marchandises, moi j'ai passé une bonne dizaine d'années dans le fret ferroviaire et je jure avoir transporté, alors pas en France, mais quelque part ailleurs en Europe, des tomates dans un sens et des tomates dans l'autre. Hein. C'est une réalité, hein. Donc, des tomates hollandaises qui descendent en Italie, des tomates italiennes qui montent en Hollande. Évidemment, c'est pas les mêmes tomates et pas pour les mêmes personnes. C'est des bonnes tomates italiennes qui remontent pour les Hollandais qui ont de l'argent et des mauvaises tomates hollandaises qui descendent pour les Italiens qui n'en ont pas. Bon. Si on veut baisser le nombre de camions aussi, il faudra avoir, voilà, beaucoup plus de production qui soit fabriquée à distance plus raisonnable qu'aujourd'hui où il y a vraiment des camions qui sillonnent l'Europe.
Moi, j'imagine qu'acheter des choses neuves, ce sera pas beaucoup plus rare. En fait, ce sera complètement normal que quand tu veux acheter quelque chose, tu l'achètes d'occasion, quoi, comme dans l'économie de la maintenance que tu évoquais.
Il faut que ça soit vraiment pour quelque chose qui vaille le coup, qui soit utile. Ouais. Quoi. Donc, il faut qu'on fasse preuve de techno-discernement, de discernement technologique, en disant, voilà, les précieuses ressources, on les utilise à quoi pour faire quoi. Alors, les vêtements, c'est compliqué, parce qu'à la fois, il a une dimension d'usure, forcément. Donc, on finit par avoir besoin d'en racheter un neuf, très probablement. Mais oui, moi, je trouve que le remettre des pièces, faire durer les vêtements n'est pas du tout idiot. Et que l'exemple du changement du col de chemise seulement.
Je ne connaissais pas ça. Hein. C'était dans ton livre, je crois que tu en parlais. Mais...
Ouais, c'est pas
qu'avant, on faisait ça, on remplaçait juste le col et les manches.
Ah, bien sûr, ouais, on remplaçait ce qui s'usait. Ouais, bien sûr. Bon, après, tu as la version déjà un peu où tu mets des coudières à la veste, quoi, quand elle se trouve. Oui. Mais oui, bien sûr, on a un peu oublié ça.
On l'a évoqué plusieurs fois, mais est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que sont les low-tech?
Oui, alors les low-tech, normalement, c'est la question interdite. Hein. Moi, je n'arrive plus à répondre à ça, mais en fait, pour moi, c'est plus. Donc, les low-tech, on peut dire, on va traduire ça par des technologies sobres, agiles, résilientes, autonomes. Pour moi, ça consiste à se poser trois questions. Une question de sobriété, de réduction à la source, de prévention. Voilà, donc comment finalement le meilleur produit, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de fabriquer.
Ouais.
Donc ça va du juste dimensionnement des bâtiments, en passant par la prévention en médecine et enfiler un pull pour baisser un peu la température de consigne en hiver si on veut pas acheter du gaz à Poutine. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a la question de l'éco-conception. Hein, si on veut se dire, quand même, une machine à laver, c'est quand même plus pratique que le lavoir, donc on va essayer de les garder. Comment on va faire durer ces objets le plus possible et les rendre effectivement réparables? Et puis, il y a la question de la place de la machine, on pourrait dire, de qu'est-ce qu'on mécanise et qu'est-ce qu'on mécanise pas, qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce qu'on automatise pas, est-ce que les métiers d'accueil doivent tous devenir des intelligences artificielles et des bornes d'accueil, ou est-ce que il faut remettre de l'humain dans certains cas, au contraire, dans l'agriculture, on va pas tous revenir à passer la faux et la fourche et aller avec la traction animale, on va essayer de garder quand même un ou deux tracteurs, c'est pas mal, c'est pratique, et une ou deux moissonneuses batteuses. Voilà, c'est se poser toutes ces questions-là et en partant dans une logique de démarche, finalement, tu peux appliquer les low-tech partout, y compris dans les secteurs très high-tech. Donc, on peut imaginer, je sais pas, j'exagère, mais pourquoi pas un avion qui serait plus low-tech que les avions high-tech d'aujourd'hui et qui serait à hélice et qui volerait à 600 km/h au lieu de 900 km/h et qui aurait pas de traînée. Et du coup, d'un coup, l'impact climatique serait divisé par 4 avant même d'avoir besoin de faire de l'hydrogène ou des biocarburants. Tu peux faire l'Internet low-tech en réfléchissant à avoir un unique réseau d'accès. Je comprends pas trop pourquoi il y a... Quand t'as pas 4 tuyaux de gaz qui arrivent chez toi et t'as pas 4 câbles d'électricité qui arrivent, t'en as qu'un seul. Quoi. Donc, par contre, dans les télécoms, t'as 4 réseaux d'antennes qui... envoient chacun leurs signaux et leurs ondes. On pourrait faire un truc unique.
Oui. Un exemple simple que tu utilises avec le Covid, c'est qu'aujourd'hui, on vend surtout des thermomètres électroniques qui ne marchent pas très longtemps, alors qu'on a longtemps eu des thermomètres à alcool qui marchent au moins 10 ans. Quoi.
Alors ça, c'est un cas vraiment emblématique, parce qu'effectivement, dès que tu cherches évidemment le thermomètre électronique que tu n'as pas utilisé depuis 2 ans, tu as la pile qui a coulé dedans, le truc, dans l'environnement de la salle de bain humide, le truc n'a pas une durée de vie très très longue, alors que ton thermomètre à alcool, effectivement...
Donc c'est même pas qu'on revient à l'âge des cavernes, c'est que ça améliore même
Et alors sur Covid, tu peux même pousser la métaphore un peu plus loin, parce que sur Covid, on a eu une réponse évidemment très high-tech avec avec les vaccins qui ont été développés à une vitesse phénoménale. Puis en fait, bah, la réponse de l'humanité pendant de nombreux mois, elle a été affreusement low-tech, enfin affreusement si je puis dire, parce que c'était imposé, mais ça a été comportemental. Fallait se moucher dans son coude d'abord, et puis après on a fait des masques en version fait à la maison, do it yourself, et puis voilà. Et c'était finalement à travers notre comportement, à travers les usages, qu'on a su répondre et finalement trouver, avec une complémentarité de high-tech, trouver de la, finalement, cette fameuse résilience, quoi. Donc finalement, ouais, je trouve qu'on devrait en tirer des conséquences, quoi.
Ouais. Je trouve ça hyper intéressant que tu limites pas la définition de la low-tech à juste l'opposé d'high-tech, mais que, parce que là on va vous donner plein d'exemples, mais que c'est aussi effectivement à remettre en question nos besoins et ouais, imaginer une autre société en fait, et pas juste réduire notre empreinte carbone, quoi.
Oui, alors je pense qu'il y a une partie des... C'est toujours compliqué, la notion des besoins, parce qu'en fait, encore une fois, dans le confinement du printemps 2020, il y avait la question des besoins essentiels. Hein. Qu'est-ce qui était un besoin essentiel ? Est-ce que oui. C'était est-ce que la librairie, voilà, est-ce que c'était un besoin essentiel ? Est-ce que le papier toilette était un besoin essentiel ? Voilà, il y a un peu, bon, tu peux te poser plein de questions philosophiques. Et en fait, c'est très très dur de répondre à ça, parce que je crois que c'est les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, il travaillait sur cette question aussi des besoins essentiels. C'est quoi? Bah, bien sûr, évidemment, manger, je sais pas quoi, mais dès que tu sors de quelques besoins physiologiques et sociaux très standards, t'as un vrai sujet, parce qu'en fait, l'être humain n'a pas vraiment de besoin ou d'envie. Tu te crées tes envies et tes besoins par rapport aux autres, en fait. Hein,
J'adore le fait que dans ton livre, tu utilises énormément d'exemples. Alors, il y a des exemples low-tech individuels classiques, genre du zéro déchet, remplacer ton gel douche par un savon, ou ramener ta boîte en carton 2 pour la re-remplir. Mais il y a aussi des exemples collectifs. Dans le sport, en 2060, on fait plus de compétition locale, de compétition locale et moins d'international. Et tant qu'à faire, les joueurs se déplacent en train plutôt qu'en jet privé pour faire Paris-Marseille, par exemple. Il y a les mairies qui privilégient, par exemple, le basket plutôt que le golf, parce que c'est un sport qui requiert peu de surface par joueur. Donc, on a ce genre de réflexion-là. Mm-hmm. Et sinon, on a aussi enfin interdit l'éclairage publicitaire la nuit. Hop, ça fait déjà 100 en moins de consommer.
On pourrait l'interdire le jour aussi, hein, l'éclairage publicitaire, à mon avis. Je pense pas qu'il tienne jusqu'à 2060, mais oui, voilà, ce sont des exemples. Alors, les grands événements sportifs, qui déplacent des foules très importantes. Le bilan carbone globalement d'une Coupe du Monde de foot, c'est quoi ? C'est des déplacements des personnes essentiellement, ou des JO. C'est des déplacements des spectateurs. Alors évidemment, quand tu fais des JO en version confinée, là, les spectateurs se déplacent pas. C'est meilleur pour le bilan carbone. Et puis le deuxième grand poste, je pense, c'est quand tu construis des stades qui vont pas servir derrière. Tu vois, évidemment, ça s'est amélioré avec le temps, parce que maintenant, les villages d'athlètes, ça devient ensuite des vrais logements, etc. Mais globalement, c'est un coût phénoménal, je trouve. Et moi, je pense qu'effectivement, la liesse et l'aspect festif, etc., il n'est pas obligé d'être forcément à un niveau mondial. Et puis moi, j'avoue que le fait de battre le record du monde de saut à la perche ou de 100 mètres, je reconnais la performance physique et préparatoire et mentale des athlètes. Hein, c'est pas le problème, mais voilà, je me dis qu'il y a d'autres manières de faire. Encore une fois, tu peux admirer l'incroyable coordination de la patrouille de France, tu vois, en disant, ah, la vache, ils bossent ensemble, c'est incroyable, à la microseconde, et ils se font confiance entre eux, et à la fin, ça donne un résultat qui est formidablement beau. Et encore une fois, t'as la même chose dans un orchestre, quoi, tu vois, t'as des gens qui se font confiance et qui jouent ensemble à la microseconde aussi, et qui
consomment moins d'énergie.
Et ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie que la patrouille de France. Alors, voilà, je dis pas que supprimer la patrouille de France, mais voilà. En tout cas, voilà, ça pose, je pense, des questions, encore une fois, de
priorité, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le jour, pour l'instant, on vivait dans un monde d'abondance, d'abondance énergétique, d'abondance de ressources. Alors, c'était le monde très occidental, hein. Ça se faisait au détriment, quand même, de la ponction des ressources sur d'autres populations, hein, qui nous extrayaient ça pour pas cher. Quand même, hein. Donc, c'est une toute petite histoire de l'humanité, un tout petit endroit, quelque part, hein. Le monde occidental sur quelques décennies ou un peu plus. Voilà, ce monde d'abondance se terminant, il faut se dire, qu'est-ce qui est un peu superflu, de quoi je peux me passer, de quoi je peux pas me passer. Et la réponse, évidemment, elle ne peut être que, j'espère, ultra démocratique, parce que bah, tout le monde n'aura pas le même avis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, mais t'es malade, tu racontes n'importe quoi avec le foot, c'est super. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'il faut faire du foot, mais avec très peu de spectateurs, ou les spectateurs, ils sont que locaux, ou alors, effectivement, ils se déplacent qu'en train, et puis ils prennent une semaine pour venir, j'en sais rien. Mais voilà, il faudra trouver des mécanismes qui permettent d'avoir ces instants de ferveur et de plaisir et social quand même, parce que ça fait le
moment de fête, oui.
Voilà, les faire avec le moins de carbone possible.
Alors, j'essaie de te garder le plus possible en 2060. Mm-hmm. Il y a un autre exemple de bon sens que tu évoques, c'est qu'on ne vend plus que des médicaments à l'unité, comme ça existait en fait déjà dans plusieurs pays en 2022 apparemment.
Ah oui, absolument, ça existe dans plein de pays, il y a que... même s'il n'y a pas de majorité de pays où ça existe, parce que je pense que ça, j'ai pas été un méga globe-trotteur, en tout cas j'étais pas si malade que ça quand je me suis déplacé dans quelques pays, mais enfin ouais, il y a beaucoup de pays, je pense en Afrique, en Hollande, en Angleterre, il me semble qu'on apprenait beaucoup avec où on te donne exactement la quantité dont t'as besoin, et alors qu'en France la spécialité des labos pharmaceutiques, c'est de concevoir la boîte qui dépasse de deux comprimés, où il manque juste deux comprimés pour faire exactement les 8 jours ou les 14 jours dont tu as besoin, pour pouvoir t'en fourguer un peu plus. Ou plutôt en fourguer un peu plus à la sécurité sociale. Donc oui, voilà, c'est un exemple. Alors, je pense que le domaine hospitalier, le domaine médical, c'est un bel exemple de là où c'est intéressant de garder un peu même beaucoup de technologie, bien sûr, parce que tu te dis, quand tu as vraiment un gros problème, t'es content d'être pris en charge avec des trucs de très grande qualité, et les progrès ont été phénoménaux, enfin c'est évident. Mais encore une fois, il faut peut-être se dire que d'abord, il y a quelques grands fondamentaux sur lesquels on pourrait travailler un peu plus, qui sont les questions de prévention. Moi, je pense à la question du surpoids, de l'alimentation, de l'activité physique, des risques psychosociaux, des gens qui se tapent dessus, de l'alcoolisme, que sais-je. Enfin, il y a quand même... On se fracasse pas mal avant, et on est plutôt dans un mode de réparation que de prévention. Donc, est-ce qu'on pourrait pas mettre un peu plus l'accent sur tout ça? Alors, évidemment, ça fait moins de business pour plein de gens, donc c'est désagréable, mais ça pourrait être ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des inspirations à trouver, d'ailleurs, du côté de l'historique médecine chinoise, dont je ne suis pas spécialiste, là, encore une fois, mais voilà, dont on dit que c'est... Voilà, avant, on payait plutôt on payait le médecin quand on va bien, et puis c'était gratuit quand on ne va pas bien. Donc, il y a un peu ce côté-là, peut-être, à trouver ou à retrouver. Après, dans la pharmacopée chinoise, il y a plein d'autres problèmes sur l'exploitation d'animaux sauvages, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'on pourrait retrouver, encore une fois, peut-être un plus juste milieu entre l'hyper-efficacité qui finalement permet peut-être de gagner un peu du temps, voilà, et de gagner du temps de travail humain. Et voilà, le travail humain, ça coûte cher, ça fait grève, c'est pas sympa. Voilà. Mais bon, voilà, l'humain, c'est bien aussi dans un certain nombre de cas.
Alors mieux maintenant, dans certains pays, en 2060, on imprime les journaux sur un papier assez doux pour s'en servir comme PQ. Ça, je trouve ça génial.
Ouais. Bon, alors c'est, j'avoue que c'était un peu une blague de potache. Bon, d'ailleurs, dans la version, je crois que c'est l'unique endroit où j'ai été légèrement censuré par mon éditeur à l'époque. Je te livre une information totalement confidentielle, mais bon, ça fait suffisamment de temps maintenant. Non, parce que je crois que j'avais rajouté en disant, et pour certains journaux, ça sera bien fait, parce qu'ils méritent pas tellement plus. Voilà, puis il m'a dit, c'est pas la peine de te couper d'une partie des gens qui pourront te faire une recension. Donc,
ce qu'on faisait pendant l'entre-guerre?
Non, on n'imprimait pas sur du papier doux, mais par contre, on utilisait le papier journal. Non, l'invention, je pense qu'il y a un livre à écrire, sans doute, sur, peut-être un court opus, mais sur l'invention du papier toilette d'une part, et puis du mouchoir jetable, de l'autre, qui sont, deux choses qui sont apparues assez tardivement, je pense, dans les sociétés occidentales,
Et en 2060? En France, on a enfin réintroduit la consigne de bouteille. Victoire!
Ouais, alors là, non, là, t'es méchant, Pierre, parce que moi, je pense qu'elle va réapparaître pour celle-là beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, pour le coup.
Oui.
Alors, c'est vrai que c'est pas une innovation. Voilà, c'est un très bel exemple d'innovation qui est pas une innovation technique, technologique. On sait nettoyer une bouteille, il n'y a pas de problème depuis très longtemps. faut des produits chimiques, mais gentils, de type soude, et après, ça peut même faire de l'engrais.
Une innovation.
Voilà. Et pour le coup, Par contre, il faut de l'innovation, ce que j'appelle moi un peu organisationnelle. Quoi. C'est-à-dire, mais il faut mettre des logisticiens, des gens qui stockent, des gens qui transportent, des gens qui distribuent. Le magasin,
clarifier, par exemple, qu'on fabrique plus que 4-5 modèles standards de bouteilles pour faciliter le recyclage. Et tu proposes, par exemple, que les marques ne se différencient plus que par l'étiquette et pas par le moule de la bouteille. Quoi.
Exactement. Alors, c'est en fait, c'est parce que effectivement, aujourd'hui, si tu veux réembouteiller, je sais pas, une bouteille d'une célèbre eau gazeuse qui est embouteillée du côté de Vergès. Je sais pas si tu cites des marques sur ton podcast, mais bon, voilà.
Ah ouais.
Il y en a pas 36. Donc, voilà, vous trouverez. Et si elle a été bu à Dunkerque, tu vois, pour descendre la bouteille à vide à Dunkerque et puis de Dunkerque, elle a réembouteillé à Nîmes, ça marche. Enfin, voilà, même le bilan carbone n'est pas bon, quoi, par rapport à casser le verre localement et ensuite transporter ce qu'on appelle le calcin, c'est-à-dire le verre cassé. Par contre, si tu as réembouteillé localement, là, tu y gagnes. Et donc, effectivement, l'idée d'avoir un espèce de format standard où tu te différencies plus que par l'étiquette, eh bien, tu peux, à ce moment-là, finir une bouteille d'huile et rembouteiller une bouteille de lait, finir une bouteille de lait et embouteiller une bière chez un microbrasseur, etc. Et puis, tu peux imaginer qu'il y a un format un peu spécifique pour, je sais pas, les produits ménagers, ça sera un peu différent. Et voilà. Et ça, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un truc assez, mais c'est, en fait, c'est pas très, très vieux. On touche du doigt ça. Enfin, moi, j'ai des gens dans ma famille qui m'explique que quand ils étaient petits, et bon, je suis pas si vieux que ça, Pierre. Hein,
ah oui, nos grands-parents.
Voilà, de la génération de mes parents, les enfants, ils allaient remplir la bouteille d'huile chez le.
Moi, j'ai vécu un an à Berlin, il y a des consignes partout.
Et alors, à Berlin, c'est peut-être jamais parti, je sais pas. Il y a le lait aussi, qui est bien connu au Royaume-Uni. Mais voilà, je pense que c'est pas des choses qui sont trop, trop compliquées à remettre en œuvre. Et ça serait surtout un truc qui est incroyablement facile à faire, en fait. La puissance publique pourrait dire, pour vendre une bouteille sur le territoire français, voilà, soit il faut une autorisation d'importation très spéciale parce que je sais pas quoi, c'est du vin, je sais pas quoi, italien, encore que on pourrait leur imposer aussi nos formats. Pour moi, la marque la plus importante, en fait, sur les décisions qu'on peut prendre ou pas pour initier la transition, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle territoriale sans qu'il y ait des effets pervers qui soient induits. Et ce qu'on peut pas faire, je m'explique, c'est tu fais une taxe carbone à l'échelle de l'Europe et tu taxes le ciment, hein, c'est ce qu'on a fait avec les schémas d'émissions de trading des quotas d'émissions de CO2 depuis quand même quelques années maintenant, enfin un peu plus. Eh bien, tu te retrouves avec des cimenteries qui s'installent en Égypte et puis qui t'importent du ciment égyptien. Quoi. T'as pas gagné grand-chose. Tu prends, un data center et tu dis, on va faire une taxe sur les data centers. Tu as un risque que les data centers déménagent et puis s'installent à l'autre bout de la planète et tu n'auras rien gagné au niveau planétaire. Tu dis, le smartphone, c'est un truc très, très méchant. On va le taxer avec une TVA à 100%. Tu as des gens qui vont te faire l'aller-retour à Dubaï pour aller en acheter un hors TVA, quoi. Bon. Donc, c'est des trucs où, quand tu veux essayer de faire ça, c'est très
vite. Il faut penser en amont, quoi.
Par contre, tu as des choses qui sont totalement territorialisées. C'est-à-dire que tu peux dire, je suis désolé, moi, effectivement, en restauration rapide, j'interdis les déchets jetables. On va pas livrer les burgers par drone de Suisse, de Belgique ou d'Espagne, quoi. Ça va pas marcher trop. Quoi. Donc du coup, t'es obligé de te conformer à la réglementation. Idem, si tu dis la voiture qui fait plus d'une tonne ou de plus d'une tonne deux, désolé, moi j'appelle plus ça une voiture, j'appelle ça un char d'assaut, une autorisation spéciale, c'est interdit, c'est pas immatriculable, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas te balader du coup avec ta grosse Tesla ou ta BM. C'est plus possible, quoi. C'est interdit. C'est comme quand tu traverses la Suisse, il te faut une vignette, machin. Bon, voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et donc la consigne, par exemple, réussir un peu à tordre le bras de la grande distribution, ou plutôt à embarquer les acteurs de la grande distribution et les fabricants derrière sur finalement une logique de zéro déchet, c'est des choses qui, d'un point de vue réglementaire, alors évidemment, tu peux pas prendre les gens par surprise en disant au 1er janvier prochain, c'est comme ça, parce que c'est un petit peu dur, mais on pourrait très bien avoir une ambition plus forte et donner un peu de visibilité en disant, il vous reste 3-4 ans pour faire tel truc ou tel truc et on y va, quoi.
Justement, tu évoques la voiture. On peut imaginer qu'en 2060, on rechappe les pneus au lieu de les jeter. C'est-à-dire qu'on lime l'extérieur et on change que la bande extérieure de roulement plutôt que d'en jeter, je crois qu'on jette 25 000 pneus par an. Tous les moteurs de voiture à 90 km/h, ce qui nous fait économiser, je crois, bien 30% de carburant. Mmh. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, mais en fait, on s'y est habitué, quoi.
D'ailleurs, moi, on s'est habitué, mais il faut que tout ça, ça aille aussi de pair avec une évolution de l'aménagement du territoire. Enfin, c'est, ouais. Y a quand même aujourd'hui, il faut reconnaître une réalité de gens qui sont repoussés de plus en plus loin des métropoles pour les questions de prix du foncier. Et donc, du coup, bah, tu habites à 50 km de ton boulot, tu fais ça le matin et le soir, tu as un peu d'embouteillage en arrivant sur place. Voilà, si on te dit tu es à 90 au lieu d'être à 100 ou 110, ou en 80 au lieu d'être à 90, tu te mets un peu en mode révolte. Et puis, si tu as un peu de taxe carbone là-dessus, c'est compréhensible. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait à la fois une logique d'un peu de démobilité, de renouveau, justement de ces villages, de ces bourgs, de ces petites villes, voilà, tout un tissu de fonctionnement qui nourrira aussi la transition agricole hein, et agroalimentaire, parce qu'il faut quand même si on revient pas à l'attraction animale, et il va falloir quand même un petit peu plus de monde pour faire de l'agriculture respectueuse du vivant, un petit peu plus de monde, pas 10 fois plus de monde, mais quand même. Aujourd'hui, voilà, il doit rester 300 000 paysans, enfin, ou exploitants, agriculteurs. Voilà, on était quand même quelques millions il y a quelques décennies. Bon, voilà, il y a un juste milieu à trouver. Ça permet aussi d'avoir un usage de la voiture qui est plus subtil et qui permet d'aller un peu moins vite, sûrement. Et puis, effectivement, avec des roues que tu rechappes de temps en temps. Tu sais que un tiers des microplastiques qui rejoignent les océans, qui vient de l'usure des pneus, et un autre tiers qui vient des microfibres de la machine à laver, hein, des vêtements. Donc du coup, plus tes pneus sont larges, et plus malheureusement, effectivement, tu pollues les océans, et d'ailleurs pas que les océans, parce que il pleut du plastique un peu partout, même dans les montagnes, etc.
Je crois que c'est la principale source de plastique dans les océans.
Oui, tout à fait. Donc voilà, et donc du coup, en plus, si on peut les faire durer un peu plus, alors rechapper, ça marche pas ad vitam aeternam. Hein. Il y a au bout d'un moment, t'as la structure du pneu qui finit par se fatiguer un peu, tout ça. Mais globalement, plus ta voiture est légère et moins elle va vite, plus finalement tu peux tolérer une technique qui est assez simple et donc effectivement des pneus qui vont moins sucer d'un point de vue structurel et donc que tu peux rechapper facilement. Ouais.
Ouais. Je me souviens que j'avais lu une BD sur l'effondrement qui s'appelle « Tout va bien ». Et justement, avec une image d'autoroute vide, on se projetait un peu dans le futur, sans voiture, avec juste des gens à cheval et à vélo. Et ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que je voyais cette image d'un autre imaginaire.
Ouais, non, là, ça va très très loin parce que moi, j'ai envie de mettre dessus d'abord des vélos couchés, des petites charrettes électriques légères, des camionnettes, et puis il y a quand même un peu du transport. C'est-à-dire que on peut chasser les voitures, bien sûr, faut chasser les voitures le plus possible, et puis comme ça on les garde pour des ambulances, des machins, des voitures de pompiers, je sais pas quoi, et quelques autres trucs utiles quand même. Mais après t'as quand même les camions, tu vois, tu sais quand même que t'as des choses à transporter. Alors tu peux dire j'arrête de transporter des trucs entre le fin fond du Danemark et puis le sud de l'Espagne, mais t'as quand même un petit peu de transport routier à faire. Et donc, pour ça, tu as besoin un peu de tes infrastructures quand même. Et d'ailleurs, c'est ça qui use le plus tes infrastructures, en fait. Ce sont le poids à l'essieu qui est beaucoup plus lourd, évidemment, pour un camion que pour une voiture. Donc, après, il y a un autre truc, c'est que si ton autoroute n'est pas beaucoup utilisée et pas beaucoup entretenue, l'herbe pousse assez vite, en vrai. Et donc, je pense que la nature est très forte parfois, en particulier les plantes adventices. Donc, ton bitume va se craqueler assez rapidement. Et voilà, si tu vas pas vite, c'est pas grave. Hein, tu auras des nids de poules et tout ça, quoi. Mais ça va finir par se dégrader, quoi. C'est l'usure du monde.
Mais du coup, ça nécessitera de repenser tous ces axes de communication avec, comme là, tout doucement, le vélo prend de plus en plus de place. Mais voilà, je pense pas que la voiture va disparaître, mais s'il y en a beaucoup moins, il faut repenser autrement, par exemple, les autoroutes, quoi.
Voilà, déjà, tu peux commencer par dire j'arrête de faire des routes nouvelles, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le cas. Hein. Quand on a beau parler de zéro artificialisation et autres, non, pour l'instant, tout ça, ça continue, malheureusement, et ça accompagne, encore une fois, la métropolisation. Et puis, dans un territoire, il manque une diagonale, il y a toujours quelqu'un pour proposer de construire une route ou deux ronds-points au milieu.
Donc, c'est fini en 2060, Philippe.
C'est forcément fini, puisque si tu veux, bien entendu, parce que t'es sur l'existant, donc je pense que t'as encore une activité, mais qui est une activité d'entretien, de temps en temps, Voilà, faut sans doute refaire un truc. Avec quoi, je sais pas, c'est assez rigolo, hein, parce que, en fait, c'est un impensé, voilà, le bitume, in fine, c'est une des fractions du raffinage de pétrole, hein. Donc, quand t'as vraiment, vraiment beaucoup moins de pétrole, bah, tu peux vraiment, vraiment, tu te retrouves à étaler beaucoup, beaucoup moins de bitume aussi. Ouais. Donc, je sais pas trop. Donc, on est toujours dans une espèce de monde un peu sympa, toutes choses égales par ailleurs, sur le mode, on va faire des avions à hydrogène. Donc, ça, c'est super. Des voitures électriques, donc ça c'est super, avec des énergies renouvelables, ok top. Et puis pour le reste, tout va marcher pareil. Ben non, en fait, tout va pas marcher pareil, parce que déjà, t'es même plus capable de faire du bitume pour les routes d'accès de tes éoliennes et pour refaire, je sais pas quoi, le quai de chargement de ton truc d'éolienne offshore. Et enfin, donc en fait, ça c'est beaucoup plus systémique, imbriqué et complexe que ça, quoi.
Voilà, je voulais vous faire ce voyage dans le futur pour imaginer un monde plus low-tech. Et surtout, en fait, tous ces trucs qu'on peut déjà mettre en place facilement. Et en fait, plus on s'engagera dans cette voie, plus on trouvera des réponses, parce qu'il y a encore tout à inventer, on n'a pas réponse à tout. Et par exemple, je comprends très bien que, comme on l'a évoqué, voilà, c'est très dur de se passer d'une voiture, encore plus quand 85% des déplacements sont, voilà, pour des raisons économiques, aller au travail, faire les courses chez le médecin, etc. Mmh. Mais du coup... comment on fait pour s'auto-contraindre à la sobriété, quoi ? Comment est-ce qu'on range ces changements enthousiastes ? Parce qu'aujourd'hui, c'est anti-électoral. Mmh. Donc, est-ce qu'on interdit enfin les pubs sur les SUV ? Est-ce que, comme tu disais, par exemple, on limite le poids des voitures ? Est-ce qu'on bride les moteurs ? Ou est-ce que c'est plus en mettant en avant ce qu'on a à gagner, quoi ?
Moi, je pense que c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire que, d'abord, je pense qu'il faut se dire qu'il y a il y a différents types de sobriété. C'est-à-dire qu'il y a souvent, la sobriété, elle descend sur la question personnelle ou familiale, quoi. C'est est-ce que tu prends une douche froide ou des bains brûlants? Est-ce que tu prends ta voiture ou tu prends ton vélo et puis t'es tout seul sur la quatre voies avec des voitures qui te dépassent? Est-ce que tu chauffes plus ou moins ton appartement et puis est-ce que tu prends l'avion ou est-ce que tu prends pas l'avion pour aller en vacances? Voilà. Donc. Et bien sûr, il y a cette composante-là de la sobriété, et c'est peut-être celle qui est la plus un petit peu liberticide ou auto-liberticide, je ne sais pas comment dire. Bon. Mais ensuite, il y a une sobriété qui est une sobriété en fait qui est systémique en fait, qui est organisée par nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire que évidemment, aujourd'hui, t'habites à la campagne et t'as pas de voiture, t'es mal, t'es juste mal pour aller acheter le pain, pour aller faire tes courses, pour aller chez le médecin, pour déposer les enfants au cours de musique, je ne sais pas quoi. Évidemment. Mais parce qu'on a désertifié les campagnes. Et donc, à chaque fois, il y a 10 km ou 15 km à faire, parce que on a la grande distribution qui a dit qu'elle créait des emplois à un endroit, mais enfin, elle en a fait disparaître deux fois plus dans les petites boutiques de village. Donc, si tu as réussi à redynamiser des centres-villes, des bourgs, si tu as une logique de développement qui est plus urbain, qui est plus polycentrique, si tu réinvestis de l'existant, si tu redémarres des activités en pause, beaucoup de questions de relocalisation, un certain nombre de d'activités économiques. Bah, tout ça fait qu'après, bah oui, tu peux faire la ville où tu peux te déplacer avec 10 minutes de vélo ou 5 minutes de marche, et là, pour le coup, tu trouves un endroit où tu peux acheter du pain, quoi. Mmh. Donc, il y a aussi une question de comment on redensifie, mais doucement et intelligemment, mais y compris avec des activités économiques, les zones pavillonnaires. Comment on va retravailler peut-être tout ce tissu des entrées de ville incroyables, là où il y a que des boîtes les unes à côté des autres, hyper moches en plus. la fameuse France moche de Télérama, hein, c'est pas nouveau, mais voilà, comment est-ce que tout ça peut aussi comment on peut aller réparer la ville, c'est un bon mot d'un ouvrage de Sylvain Grisot et Christine Lecomte, qui est la présidente de l'Ordre des architectes. Bon. Donc, il y a tout ça, c'est ça qui peut permettre une sobriété systémique. Je peux prendre un autre exemple. Ouais. Si tu regardes, là, il y a eu à l'automne beaucoup de rapports qui sont sortis sur la transition énergétique, entre le fait de dire est-ce qu'on fait des scénarios avec nucléaire ou sans nucléaire, et puis on essaye de les comparer un peu. Quand tu regardes ce qu'il faut sortir en termes de, ça fait un peu peur, hein, que ça soit avec ou sans nucléaire, le dispositif industriel en nombre d'éoliennes, de panneaux solaires, d'hydrolyseurs pour stocker sous forme d'hydrogène, de batteries, de stations de pompage, turbinage pour stocker avec de l'hydraulique, etc., etc. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, ce qui rend, entre autres, le truc incroyable, c'est si tu dis j'ai 20, 30, 40% de mon mix électrique qui est de l'éolien, eh bien, en fait, il faut que tu acceptes que pendant 8-10 jours, peut-être, une semaine de l'an 2043 ou de l'an 2060, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent nulle part en Europe. Et donc, il faut que tu sois capable de délivrer de l'énergie enfin une quantité d'énergie électrique comme d'habitude quelque part, hein, mais sans vent. Donc il te manque 40% ou 50% de ton mix. Comment tu fais ça? Ben, faut que tu aies stocké l'équivalent d'une semaine quelque part, sous forme d'hydrogène, sous forme de batterie, sous forme de méthane. Et donc ça te fait un dispositif qui est juste hallucinant. Hallucinant, ouais. Parce que bah, une semaine de conso, ça fait beaucoup. Eh bien, si demain on disait, bah non, en fait, ce qu'on pourrait faire, bah, on dirait, bah, tiens, eh bien, en 2060, effectivement, si je manque de vent pendant 3, 4, 5 jours, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller flécher les électrons sur les hôpitaux, les transports publics, voilà, les endroits où il y en a vraiment besoin. Et puis, bah, tiens, le chauffage, bah, non, pendant 2, 3, 4 jours, eh ben, la température va un peu baisser, ça va pas être sympa. On va passer de 19, 18, 17, 16, 15, oulala, très froid. Et puis là, à un moment, le vent revient, hop, super, merci. Bah, tu vois, le dispositif industriel qu'il faut que tu installes, c'est plus du tout le même. En fait, t'as une sobriété systémique choisie, décidée, qui d'ailleurs fait quelque part, les consommateurs, on devrait pouvoir leur poser la question aussi, les consommateurs citoyens, parce que tu te dis, bah, ça fait tant d'éoliennes en moins installées, ou tant d'hydrolyseurs en moins, tant de biométhaniseurs en moins. D'ailleurs, du coup, ça vous coûtera moins cher, parce que évidemment, tout ce qu'il faut installer, à un moment, faudra le payer dans les factures. Et donc, qu'est-ce que vous préférez? Avoir froid pendant 3, 4, 5 jours, enfiler un anorak chez vous, tous les 2 ans? Ou bien, est-ce que vous voulez que tout tourne nickel, impeccable, quand vous appuyez sur le bouton, tout marche? Mais alors, par contre, ça vous coûtera 2 fois et demi le prix. Et puis, on va abîmer un peu plus les paysages et je sais pas quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'est des questions. Voilà. Pour moi, ça dépasse vraiment la question personnelle et familiale.
Oui, mais c'est bien de le ramener à la dimension collective. Et... Ouais, j'ai l'impression que la question en fil rouge, c'est quoi le progrès, en fait? Je vous conseille, d'ailleurs, de suivre l'épisode qu'on a fait avec François Ruffin, mais est-ce que... Bah là, c'était super parce que tu as donné un exemple nuancé, mais souvent, c'est vrai que c'est un peu plus caricatural entre est-ce que le projet, c'est la 5G et aller sur Mars, ou est-ce que c'est effectivement être capable de faire face au choc à venir et que les gens soient heureux et en bonne santé et vivent dignement, quoi.
C'est vrai que c'est ça qui fait sans doute l'incroyable... richesse ou curiosité de notre période. Moi, je suis pas si inquiet que ça, mais je me suis amusé, alors pas dans l'âge des low-tech, mais dans le Bonheur était pour demain, qui était mon dernier opus.
Ouais.
J'ai fait un clin d'œil à l'ouvrage d'un néo-malthusien à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui avait dédié son livre à tous ceux que l'avenir inquiète. Et moi, j'ai dédié mon livre à tous ceux, à toutes celles et à tous ceux que le passé inquiète. Parce que je me dis que c'est le passé qui m'inquiète, c'est pas l'avenir. C'est ce qu'on a été capable de faire, en fait, à tous les niveaux. Et je pense que le 21e siècle, il va être un peu compliqué. Bon, bah, très bien. Mais le 20e, il a pas été particulièrement simple non plus, à plein d'endroits, hein. Dans les années 60, les écoliers, aux États-Unis, on leur apprend à se jeter sous les tables quand ils voient un flash par la fenêtre parce que c'est le début de la 3e guerre mondiale. Bon. Donc. Et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir des vies bonnes, etc. Donc, je pense qu'il y a une question de réalisation, effectivement. Il y a une question de progrès, qui est un mot qui a été un peu chassé, hein, c'est vrai, par le mot innovation. Et on voit bien que l'innovation technique et technologique, ça suffit peut-être plus à fasciner les gens, ou en tout cas pas autant qu'avant. Et donc, il faut trouver, effectivement, un chemin qui apporte du plaisir, du bonheur. On peut pas se dire qu'on va se restreindre comme ça jusqu'en 2060 en disant, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants nous remercieront. Non, ça marche pas comme ça.
Donner envie aux gens,
il faut que ça apporte
vivre plus pur, vivre plus longtemps en bonne santé.
Il faut que ça apporte un vrai plus tout de suite. C'est-à-dire que, quand t'as moins de voitures, t'as aussi moins de bruit, t'as aussi une meilleure, t'as moins de pollution, c'est moins dangereux, l'espace public est moins dangereux pour les enfants, donc ils peuvent peut-être à nouveau jouer dans l'espace public. Et c'est un monde plus apaisé, peut-être où on se déplace moins. Donc il faut être capable d'offrir des trajectoires qui vont, qui vont être séduisantes. Donc ça, c'est très bateau, hein, en ce moment dans le milieu écolo, c'est très toi tu dois avoir vu ça, mais ça ouvre la question des imaginaires, des nouveaux récits, etc. Mais c'est quand même un peu vrai, quoi.
Ouais. Je me demandais pourquoi est-ce que toi tout ça te tient à cœur, toi personnellement?
Ouais, tu veux dire comment je suis tombé dedans?
Non, pas forcément, enfin ça peut être ça, mais pourquoi ça te touche, pourquoi t'en as fait ton combat, quoi?
Oui, alors un combat, c'est sans doute un petit peu exagéré. C'est pas ça. C'est que moi, en fait, j'ai découvert, c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à vraiment ces sujets en particulier de ressources. J'avais été assez paniqué d'un point de vue vraiment philosophique, éthique, moral, on pourrait dire, sur cette question de la consommation inéluctable de ressources. C'est-à-dire, j'extrais des grammes de titane ou de cuivre, ou, et puis ensuite la manière dont je vais l'utiliser fait qu'ils vont être dispersés pour toujours dans les océans ou dans les sols. Hein, c'est voilà, c'est aujourd'hui quand tu utilises du titane dans une peinture blanche, bah voilà, tu vas pas recycler le titane après quoi. Donc voilà, il sera plus jamais disponible. Tu l'as pris à un endroit où il avait été concentré par la planète et il sera perdu pour toujours. Bon, moi ça m'avait fait être tout drôle. Donc du coup après j'ai tiré le fil sur ça, sur ces questions de recyclage, etc. Et j'ai un peu découvert tout ça. Et bon voilà, je me suis toujours intéressé aux questions environnementales, mais sans être trop militant. Et voilà, en fait, c'est venu un peu après par hasard. Et puis, en fait, s'il y avait d'autres gens qui faisaient le job, j'arrêterais de le faire tranquille. Hein, ouais. Moi, et puis, j'irais écouter Cosy Fan Touté, comme on disait tout à l'heure. pour l'instant, voilà, tant que il me semble qu'il y a encore besoin de combattre justement ces questions de croissance verte, de naïveté technologique. Vous allez voir, on va pouvoir faire du découplage, de la dématérialisation, etc. Voilà, qui sont en fait des vieux poncifs, parce que en réalité tu retrouves des trucs comme ça même dans les années 30 déjà. Tu avais l'architecte Buckminster Fuller qui parlait d'éphéméralisation, donc le fait que c'est super, la radio a remplacé le fil du télégraphe, donc on va utiliser moins de cuivre, tu vois. Bon, alors, quand tu regardes la consommation de cuivre depuis, non, ça marche quand même pas tout à fait comme ça. Donc voilà, du coup moi je c'est ce job là que je fais, et je pense que voilà, c'est la manière que j'ai trouvé de faire ma part, comme on dit. Voilà, je peux pas trop faire colibri, mais c'est un peu ça quand même. Voilà, donc je me mets à disposition là où je peux être utile. Aujourd'hui j'ai trouvé cette forme là de l'écriture, qui a sans doute un peu une dimension cathartique aussi, hein.
Pour moi, dans la question de la sobriété, il y a toujours cette question un peu centrale de comment est-ce que parmi tous les produits et services qui consomment des ressources, on l'a évoqué, mais comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qu'on veut sauver et ce qu'on veut soit réduire, soit interdire. Et forcément, la question de la liberté pour les gens qui seront concernés par ces interdictions. Et je me dis souvent que seul, moi, je ne me vois pas, par exemple, je sais pas, réduire ma consommation d'Internet aujourd'hui, spontanément, par exemple. Mais par contre, il y a plein de trucs où je me dis, si c'est un effort collectif, mais là... je suis trop partant. Enfin, c'est plus juste et c'est plus enthousiasmant que si tu fais des efforts tout seul et pas les autres, quoi.
Ouais, mais en fait, oui. Alors, d'une part, oui, bien sûr, la dimension collective, elle est réelle. Alors moi, le côté liberticide ou pas me fait pas si peur que ça, parce que bon, voilà, depuis le 18e siècle, on sait que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, et que la notion même de vie en société fait que tu dois mettre des limites aux libertés. Enfin, je peux pas assassiner mon voisin, même s'il m'embête. Enfin, tu vois, voilà, ma liberté est contrainte, hein. Donc elle peut l'être plus ou moins. Et puis de temps en temps, on a restreint des libertés dans ces dernières années ou ces derniers mois de manière bien plus stupide que pour des questions purement environnementales, je pense, hein. Bon. Donc maintenant, ça c'est pas ça qui m'inquiète. Moi je pense que en réalité, quand tu dis je suis pas prêt à restreindre ma consommation internet, je pense que tu te trompes, parce que en réalité tu peux, voilà, déjà la première question c'est tu changes ton téléphone tous les combien, tu changes ton ordinateur tous les combien, est-ce que tu télécharges des films avec de plusieurs gigas en situation de mobilité extrême à 300 km/h dans ton train ou à 150 dans ta voiture. Et du coup, ça réclame des réseaux de folie. Ou est-ce que tu fais ça par câble à la maison? Est-ce que tu éteins ta box quand on n'a pas besoin, ou tu l'éteins pas? Alors, quand c'est en hiver et que ton chauffage est régulé, c'est pas très grave. Chaleur fatale de la box, va chauffer ton appartement ou ta maison. Par contre, quand c'est en été, c'est pas bien, parce que du coup, c'est de l'énergie qui est perdue. Voilà, donc à quel format tu télécharges tes vidéos? Il y a pas besoin de tout télécharger en HD, en 4K, en 8K, en je sais pas quoi. C'est-à-dire, s'il y a bien un domaine où... je veux dire, aujourd'hui, sur un écran de taille normale, je pense que les formats des vidéos, en nombre d'images par seconde, en nombre de couleurs, en nombre de pixels par centimètre carré, dépassent l'œil humain dans chacune de ces dimensions-là, les capacités du cerveau et de l'œil humain. Donc, se restreindre sur des trucs comme ça, voilà, encore une fois, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est à 70 ou 80% aujourd'hui du trafic Internet mondial, c'est des vidéos et du streaming. Ah ouais, est-ce qu'on a besoin de poster tant de trucs? Bon, je pense qu'il y a des manières de réfléchir à tout ça quand même, sans perdre cette dimension bien commun de Wikipédia, d'échange de connaissances, ouais. du prof australien qui échange avec un collègue chercheur en Norvège, et que sais-je, quoi. Voilà. C'est, encore une fois, c'est une question de discernement. Et
C'est un super exemple pour conclure, parce qu'effectivement, là où moi je parlais uniquement du temps de consommation sur Internet, direct à dézoomer sur toutes les consommations grises qu'il y a autour et les usages, et évidemment, dans tout ce que tu as dit, en fait, j'étais ça je fais. Et ce qui n'empêche pas de remettre en question, mais effectivement, je trouve ça hyper intéressant de à chaque fois remettre les choses dans leur contexte, pardon, et de dézoomer et d'avoir une vue systémique, quoi.
Et puis, on va plutôt en rajouter d'autres, hein, l'éco-conception des pages web, est-ce que tu mets des vidéos ou le format des photos, enfin, il y a plein de manières d'agir sur tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un secteur où il y a des progrès technologiques assez incroyables, hein, parce que le data center d'aujourd'hui, il est vachement mieux que le data center d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, hein, il n'y a pas de problème. Il consomme moins, il est moins refroidi, il y a plein de raisons à tout ça. Mais sauf que voilà, la quantité de données est tellement phénoménale et grossit tellement vite qu'il y a un effet rebond, quoi. Et voilà, cet effet rebond, il nous poursuit. Donc, les low-tech, c'est aussi ça, c'est de se dire finalement comment est-ce que j'évite, en considérant que les solutions ne sont pas techniques mais socio-techniques, elles embarquent encore une fois, comme on le disait sur Covid tout à l'heure, les usages, les comportements. Comment on arrive à capturer ce satané progrès, utilisons le mot progrès technique, sans se faire peur, parce qu'il y a progrès technique quelque part, voilà, mais les usages qu'on en fait que c'est plus un progrès, quoi, que c'est un regret, quoi. Voilà, c'est ça aussi, se poser ces questions-là. Et je pense que les toutes petites voitures, tu t'interroges des gens qui ont vécu dans les années 60, franchement, ils avaient des toutes petites bagnoles, est-ce qu'ils ont vécu ces années comme étant des années liberticides, tu vois? Ils avaient des 4L et des 2 chevaux à 90 km/h, les cheveux au vent, ils étaient pas loin du plancher, donc ils avaient l'impression de foncer comme dans une Mercedes aujourd'hui à 180 ou 200, tu vois.
Et, oui, mais ils ont jamais été habitués à...
mais là, l'être humain, là, je pense qu'on peut être surpris par la nature humaine. Si l'être humain est hyper adaptable dans un sens comme l'autre. Bien sûr, on s'adapte au confort, et donc c'est désagréable d'aller dans l'autre sens. Mais à l'inverse, on s'est adapté au bruit, on s'est adapté à la saturation, on s'est adapté au fait de se cracher à la gueule, ou que sais-je, je veux pas être, tu vois. Donc il y a quand même des choses aussi, donc moi je pense qu'il y a avec des petits coups de pichenette, des petits coups d'accélérateur de l'histoire, qui ne manqueront pas de venir, hein, Covid-19 c'en était un, hein, sur la question du télétravail, sur la question du vélo, sur la question des choses comme ça, de la bienveillance, peut-être aussi, hein, entre personnes. La guerre en Ukraine, c'est un autre exemple. Là, on parle de sobriété.
Merci Philippe, c'était ultra intéressant.
Merci bien.
Si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Philippe, je te conseille des épisodes avec Jean Covici sur le mythe de Superman et l'autre épisode qui va sortir sur les low-tech avec Corentin de Châtel-Perron. Peut-être que tu connais Philippe.
Ouais, bien sûr, on se croise de temps en temps.
Qui a vécu 4 mois en autonomie sur un radeau grâce au low-tech. Abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément. Merci beaucoup Philippe, allez voir son livre L'âge des low-tech et tous ses autres livres d'ailleurs. Ciao tout le monde.
Merci Pierre.